Hachem nous amène dans ce monde parce qu'il veut qu'on... que par nous-mêmes, on arrive à lui ressembler. Et à se parfaire. Il aurait pu nous créer comme des anges, mais le but est de nous créer mauvais pour, par un travail personnel, accéder à une perfection, notre perfection, par nous-mêmes, c'est-à-dire pour avoir droit à l'union avec Hachem. Hachem, il est vivant parce qu'il est maître. C'est le maître de tout. C'est, son nom est Yudke Vavke, celui qui a été et sera, c'est-à-dire être. Être, il est vivant. La source de toute la vie, l'être suprême. Tous les éléments qu'on appelle vivants de la réalité, minéral, végétal, animal, même angélique, les anges, sont morts. Bien qu'ils sont vivants, c'est une réalité proche de la mort, parce qu'ils n'ont aucune volonté propre, aucune responsabilité. Ils sont le fruit total et absolu du programme d'Hachem. Hachem, le grand programmateur, et jamais une tulipe peut devenir rose, ni un morceau de granit devenir diamant, ni un escargot devenir bœuf. Ni un ange faire autre chose que ce que Hachem a programmé en ce qui le concerne. Donc ils sont morts. Ça veut dire qu'ils ont une existence comme un robot. On peut dire un robot est. Bon, même s'il est extrêmement actif, il n'est pas. Il n'est que le résultat de son programmateur qui lui est. Hachem voulu qu'on s'unisse à lui en tant qu'être étant, ayant un être propre. Pour cela, il nous donne un libre arbitre. Et on dit voilà, j'ai mis dans toi la vie, la mort, choisis la vie. C'est-à-dire que j'ai une option, mort. Et je dois choisir la vie. Ça veut dire, Hachem me conseille, bats-toi contre cette pulsion mortelle qui est en toi. Pour accéder à la vie, c'est se brancher avec moi. Alors, quelle est cette source de mal qu'il y a en moi? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle dans le monde de la psychologie moderne, l'ego. Pas le jeu. Le ego. Le malheureux, l'immense, le géant ego, qui est vraiment une source de mal terrible. Alors, qu'est-ce que c'est que l'ego? L'ego, c'est l'amour de soi effréné dans toutes les... avec une exigence de vouloir satisfaire toutes les volontés de cet ego, de moi-même. Je m'adore, donc j'aime qu'on m'adule, j'aime qu'on m'estime, j'aime qu'on fasse des compliments. Je m'adore, donc j'aime ne pas faire d'efforts, la paresse. Quand le fait, une satisfaction que je peux recevoir sera plus grande que la satisfaction que j'aurai de rien faire, alors tout d'un coup je deviens extrêmement assidu et rapide. On prenait par exemple des businessmen qui sont des grands paresseux. Quand on était à l'école, ils se levaient tard, à l'échiva encore pire. Puis un jour, on tombe dans le business et là, ils se deviennent des lions. Qu'est-ce qui se passe? Le matin, ils se réveillent, ils voient les euros, ils voient les dollars. Zoup! C'est pas qu'il est devenu tout à coup une bête de travail assis. Non, il a une tava, il a un amour de lui-même, qui est la satisfaction qu'il a à faire de l'argent, parce qu'il y a une pulsion de ce type-là, l'amour de l'argent, qui est plus grande que l'amour du lit. C'est toujours... l'ego va calculer rapidement où est-ce qu'il y a plus de plaisir et moins de souffrance. Bien sûr, je suis le meilleur, je ne le dis pas parce que ça ne sait pas, ça fait un peu bébête. Je suis le meilleur parce que j'arrive à la... Bon, il y a peut-être des gens mieux que moi, c'est clair, mais bon, dans ma vie intérieure quotidienne, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça, je suis le juge de tout le monde. Évidemment, je suis mieux que tout le monde. Quand on juge tout le monde, on est mieux que tout le monde. D'où la difficulté de ne pas parler la Shonara. Parce que quand je parle la Shonara, je me grandis, je grandis mon ego. Lui, il est comme ça, sous-entendu, donc moi, je suis mieux que lui. Un, parce que je n'ai pas le défaut que je critique. Deuxièmement, parce que je suis son juge, donc je suis meilleur que lui. Je suis coléreux, parce que si on me fait guili-guili, comment est-ce qu'on ose toucher mon ego ? Là aussi, ça dépend où. En public, mon ego qui se doit être quelqu'un de bien, bien que je peux bouillonner intérieurement, je me calme, parce que c'est pas bien pour mon ego de montrer que je suis une bête féroce. Des fois, je me retiens pas aussi, même en public. Mais à la maison, oulala. L'amour des plaisirs de ce monde, tout ce qui est plaisir, fait beaucoup plaisir à l'ego. Voilà. Et on peut dire que dans notre monde aujourd'hui occidental, on vante extrêmement l'ego. C'est le message médiatique qu'on entend le plus. Jouis, kiffe, c'est-à-dire réponds aux demandes de ton ego. Toutes les demandes qu'il a, maximales, de tous les côtés, tout azimut, tout ce qu'il veut. T'es le meilleur rêve.
C'est que pour mon corps, l'ego, c'est pas pour mon neshama. Il n'a pas un ego aussi, mon neshama, de vouloir être d'autres.
Parle-moi de neshama. Tu peux te demander quel est le neshama. Très bien. Hachem m'a donné cet ego et m'a donné aussi une neshama pour corriger cet ego. Neshama, elle veut faire ce qui est juste. Elle comprend que c'est faux de dire que je suis le meilleur. L'honneur ne me revient pas. C'est très agréable, mais c'est pas juste. Ça te revient pas. Pourquoi tu aurais des honneurs ? Qui es-tu ? Tu t'es créé toi-même. Tout ce que tu as, c'est Hachem qui te l'a donné. Il y a un travail énorme qu'on pourra faire, bien sûr, grâce à la Neshama, entre autres. Comment on fait ? On fait des moussards, on étudie ces choses-là pour réveiller les messages de la Neshama en moi, et ma conscience lentement va commencer à corriger mon ego. Mais c'est un travail très dur. Le traité de la Gemara, le traité de la Mishnah, qui ne parle pas de Halakha, mais qui ne parle que de mon ego, s'appelle Pirkei Avot. Pirkei Avot. Là-bas, c'est du Moussa. C'est tous les conseils pour soit comment être un homme droit, un homme juste, un homme comme Hachem veut. Pas au niveau de la halakha, au niveau de la conduite. Et il y a un seul endroit dans toute Avot où c'est marqué Me'od. Beaucoup, beaucoup. Dans la halakha, le Shulchan Aruch, c'est marqué une seule fois. Beaucoup, beaucoup, c'est éloigné des femmes. Et les femmes, beaucoup, beaucoup, c'est éloigné des hommes. Tzniut. Bien séparés. Ça, c'est au niveau halakha. Au niveau moussar, au niveau de la correction de mon ego. Rabbi Levitas ish Yavne, Rabbi Levitas, un homme de Yavne, Omer dit Me'od eve shfal ruach. Beaucoup, beaucoup, soit shfal signifie bas, ruach, d'un esprit bas, ça veut dire en bon français carpette. Comme disent Chazal aussi dans Réhouven 54, Kiskopan idreset, comme le seuil de la porte qu'on écrase. Là, tu te mets sur le seuil, tout le monde qui passe, boum, boum, boum. C'est hyper non médiatique. Et moi.
On s'autobloque après si on fait ça.
Pardon ?
On s'autobloque, c'est-à-dire qu'on en prononce un peu rien envisagé, si on se met à taquer.
On va s'abaisser plus que nous, on va devenir très timide, quoi.
Un des signes d'Am Israël, c'est timide, Baishan. Un des trois signes. Baishan, Rahman, miséricordieux, comme les chassidim aiment faire le bien. Le niveau dont tu parles, où on arrive à une humilité qu'on ne sera pas capable de faire, un peu comme Moshe Rabbeinu qui dit « Comment je vais parler à Pharaon ? Je suis bègue. » Allez, vrai qu'on l'est, d'accord ? Mais même, je peux dire, c'est pas une vie de travail, pas 10, peut-être 10 vies de travail, on arrivera à 1/100 de ça. Le niveau requis, il est très, très, très loin de nous. On est des égoïstes, orgueilleux, pleins de soi-même, énormes. Heureusement, Hachem a eu pitié de nous, et a créé la femme. Et a Dieu pitié des femmes aussi, qui ont aussi un égo, et a créé l'homme. Et leur a dit, allez, mettez-vous ensemble. Ah là 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 là, comme c'est... Le scratch. Alors, si depuis qu'on est jeune, on travaille l'ego, quand on va s'unir dans une optique de travailler son ego, d'être pas un receveur pour mon ego, mais un donneur à l'ego de l'autre, alors c'est extraordinaire. Le couple devient un tremplin d'unité, de connaissance d'Hachem, de sainteté. Mais, si on ne l'a pas fait, alors ça devient l'école à la dure. Pourquoi je devrais faire ça? Je ne comprends pas. Enfin, dans le couple, très souvent, le malaise qu'il y a, il est de côté. Je donne beaucoup, je ne reçois rien. Je donne beaucoup, je ne reçois rien. Pourquoi? Parce que depuis que je suis petit, je suis habitué à recevoir, pas donner. Mon ego est un... comme les trous noirs dans l'espace, ça avale tout, d'accord? Bon, tout compte dit, maintenant, il faut donner. Rien que donner, c'est une révolution terrible. Un des moyens qu'Hachem nous a indiqué pour arriver à un peu atténuer notre ego est une chose qui est rare aujourd'hui, parce que nous sommes tous des grands égoïstes et orgueilleux, mais c'est un travail à faire. C'est le premier mot qu'on prononce le matin en ouvrant les yeux. Modé Ani. Je te suis reconnaissant. Chazal, on dit, celui qui est reconnaissant envers son prochain sera reconnaissant envers Hachem. Celui qui n'est pas reconnaissant envers son prochain ne sera pas reconnaissant envers Hachem. Il est clair qu'on doit à Hachem une reconnaissance. C'est des paroles que je dis maintenant qui sont presque du martien. Tellement c'est loin de nous. Mais il faut commencer lentement aussi à y penser à ces choses-là. On doit être extrêmement reconnaissant à Hachem de tout le bien qu'il nous fait toute la journée sans cesse, jour et nuit. Jour et nuit, combien de chassadim, combien de bonté? Qui y pense? Rare, très rare. Plus encore, la reconnaissance envers son prochain. Parce que quand quelqu'un me fait une gentillesse, mon ego, qu'est-ce qu'il dit? Si maintenant, je dois avoir une reconnaissance envers lui, quelque part je suis redevable, insupportable. Tout le monde me doit tout, et moi je dois rien à personne. C'est l'ego. L'ego agit ainsi. Un jour, quelqu'un est venu, a été très dur, a insulté le Khatam Sofer. Très dur avec lui. Khatam Sofer dit, je ne me souviens pas quelle gentillesse j'ai fait à ce monsieur pour qu'il me haïsse tellement. Si j'étais gentil avec lui, j'ai rendu service, je comprends. Quelque part, pour pouvoir se débarrasser de l'obligation de reconnaissance, alors il vient, il est dur avec moi, il m'accuse de choses qui n'existent pas. Au moins, il a un alibi. Mais si maintenant, je n'ai rien fait de bien, donc lui n'a aucune redevance envers moi, pourquoi il me haït tellement? Vous comprenez à quel point Khatam Sofer, il sonde le cœur et dit, la réaction normale de quelqu'un qui est redevable, c'est haïr. Parce qu'il ne veut pas accepter. En hébreu, reconnaissant, on appelle cela Asir Toda. Littéralement, prisonnier du remerciement. Prisonnier. Parce que je suis prisonnier. Quelqu'un m'a fait une bonté, je suis redevable toute ma vie. Le Grise, Avistrak Zev Soloveitchik, il a dit, quand quelqu'un me rend service, fait une bonté envers moi, une gentillesse, le prix à payer, meilleur marché qu'il y a, c'est de l'argent. Quelqu'un te fait une gentillesse. Ou bien voilà, quelqu'un t'a besoin d'un service. Et bon, je te paye pour ça. Non, non, je te le fais gratuit. Non, non, je peux te payer. Non, 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 non. Pourquoi ? Il m'aime tellement. Des fois oui, mais des fois non. Le bonheur qu'il a de savoir quelque part maintenant, je vais rendre cette personne redevable à vie pour un service rendu. Le Grise, Marosovitch, il dit, donne l'argent, ça coûte beaucoup moins cher. Ça coûte beaucoup, c'est le prix le plus petit qui a payé, c'est de l'argent. Tu devras beaucoup plus. Mais on ne peut pas vivre dans une tour d'ivoire en autarcie. Hachem veut qu'on se parfaite, Hachem veut qu'on se perfectionne et qu'on arrive à devenir quelqu'un de bon. Comme Hachem qui est chesed, nous aussi on doit être chesed. Et dans le chesed, c'est reconnaître les bontés que les gens me font. Et l'école de nouveau de cela, idéal, c'est le couple. Dans un couple, on ne peut pas vivre chacun en autarcie. Il est obligatoire de donner l'un à l'autre, sinon le couple ne peut pas tenir.
Ah, Hachem vit en autarcie. Il nous a fait à son image et il veut que nous, on vit en fonction des autres, avec les autres.
C'est vrai, Hachem vit en autarcie, mais Hachem est Hachem. Par contre, Hachem, il est bon. Il est que chesed envers nous. Et dans le cadre de notre perfection, dans la ressemblance à Hachem, on doit devenir bon. Dans un couple, chacun fait beaucoup pour l'autre. On ne doit pas avoir l'impression que c'est normal. Moi je fais, c'est normal que lui aussi y fasse. Là c'est le début de la fin. Parce que comme j'ai dit, étant éduqué et vivant dans une société où on nous dit sans cesse « profite, reçois, jouis », le don pour nous est très difficile. Et quand on fait un don, ça a pour nous une valeur énorme. Et quand on reçoit de l'autre, c'est normal. Donc je dis... Ou le piège, je veux dire, j'ai donné énormément. Ce que j'ai reçu, tout à fait normal, il y a des équilibres. C'est pas normal. Et on arrive près de la fin. Pourquoi je fais tellement, je reçois rien? L'optique juive, elle est, tu donnes, sans compter par amour pour l'autre, comme Hachem ne compte pas avec nous. Et plus tu donneras, plus tu recevras, plus Hachem ne fait pas dans l'optique de recevoir. Je te dis en passant. C'est archi connu, je vais répéter quand même. La Gemara raconte que Rabbi Chia, c'est l'ami de Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un monsieur. La Gemara raconte que lui et ses deux enfants étaient semblables à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Un jour, Rabbi Yehuda Hanassi étudiait avec Eliyahu HaNavi tous les jours. Et un jour, Eliyahu HaNavi est venu en retard. Il dit, pourquoi tu es en retard? Il dit, ce matin, c'était compliqué, je vais réveiller Abraham pour qu'il prie, après Yitzhak, après Yaakov. Il dit, pourquoi tu ne pries pas les trois ensemble? Réveille les trois ensemble. Tu pries les trois ensemble, on n'a pas le droit de faire ça, parce que s'il prie les trois, Abraham, Yitzhak, Yaakov prie les trois ensemble, ma chère revient tout de suite. Alors Rabbi Danassi a profité et dit, moi sur terre, il y en a qui sont pareils aujourd'hui, comme Abraham, Yitzhak, Yaakov. Il dit, oui, Rabbi Chia et ses deux enfants. Alors venant à la synagogue, Rabbi Danassi a dit, Rabbi Chia, toi, deux enfants, venez, vous êtes Shaliar Tzibour, vous êtes les officiants. Ils ont commencé à officier et ils ont failli amener la Géoula, une boule de feu est venue à disperser le minyan. Donc Rabbi Chia, c'est un monsieur énorme, énorme. Rabbi Yehuda a dit, combien sont grandes les actions de Chia? Sans lui, la Torah aurait été oubliée d'Israël. Rabbi Chia a fait, je n'ai pas le temps d'expliquer, il a fait des choses que pour que la Torah ne s'oublie jamais d'Israël. Un monsieur énorme. La Gemara a dit qu'il avait une femme terrible. Aujourd'hui, ça n'existe pas des femmes terribles. toutes les femmes sont bien, simplement on ne sait pas toujours comment les comprendre, elles sont frustrées, alors il y a des réactions. Mais en fait, à l'intérieur, elles sont très bonnes. Les pauvres, elles ont souffert. La Gemara vient et dit, la femme de Rabbi Chia, elle était terrible, méchante. Un jour, elle est dans le marché avec un de ses élèves, il voit un truc sympa, hop, il achète, et un petit emballage cadeau comme ça, pour sa femme. L'élève dit, je ne comprends pas quoi grave. Tout le monde connaît votre femme, on la connaît, c'est terrible, vous faites un cadeau. Il répond, Dayenu, ça nous suffit qu'elle éduque nos enfants et qu'elle nous sauve du péché. Si on n'a pas de femme, on est avec d'autres femmes, on ferait des péchés avec d'autres femmes. On a une femme, on ne fait pas de péché. Ces deux choses-là, à propos de laquelle Rabbi Chia exprime sa reconnaissance. Je suis reconnaissant pour ces deux grandes choses qu'elle fait. Elle éduque mes enfants, elle me sauve du péché. Sa femme a fait quelque chose pour éduquer ses enfants. Elle ne fait pas pour lui. C'est ses enfants à elle aussi. Elle les éduque parce que ce sont ses propres enfants. Donc elle n'a pas fait pour son mari, elle a fait pour ses enfants. Mais d'une façon indirecte, il en profite. Être femme, elle n'a pas fait, elle ne s'est pas créée elle-même femme pour. Elle s'est pas créée femme pour sauver son mari du péché. Elle est femme, de façon naturelle, elle sauve son mari du péché. Elle ne s'est pas fait femme pour lui. Donc elle n'a rien donné. Et néanmoins, Rabbi Chia dit, j'achète un cadeau dès que je vois. Parce que je suis reconnaissant. Ce n'est pas un joueur, c'est pas le rabbin lui a dit pour le Shambat. On parle de Rabbi Chia, d'accord hein. Semblable à Abraham, Isaac et Yaakov. Il est reconnaissant parce qu'il voit quelque part que grâce à sa femme, il reçoit quelque chose. Bien que ce n'est même pas son attention à elle. Combien nous devons être reconnaissants avec nos femmes? Et combien les femmes doivent être reconnaissantes avec leur mari? Le premier mot qu'on prononce le matin, modé. Pas animodé, je suis reconnaissant. Reconnaissant, je suis. À toi, Hachem, et à tout le monde, tout le bien qu'il y a sur terre. Et combien on doit être content d'avoir un mari, c'est mieux d'être divorcé, c'est mieux d'être veuve. Combien on doit? Et combien le mari doit à sa femme? C'est un moyen relativement facile de travailler l'ego. Du moment qu'on est reconnaissant à l'autre. Alors on se met dans une situation déjà beaucoup plus subalterne. Je suis reconnaissant. C'est toujours le donneur une position plus grande que le receveur. Donc quand je reconnais ma position de receveur, forcément, ça va écraser mon ego. Baruch Hashem. C'est, vous verrez, les gens orgueilleux, c'est dur pour eux de dire merci. C'est dur. C'est dur.
C'est naturel.
Ouh là là. Merci, on dit un merci comme ça. Mais être reconnaissant, appeler, dire, revoir, se souvenir, pas facile. C'est une dette à vie. Abbasan Abba Shaoul, je me souviens, m'en racontait, je n'étais pas né à l'époque, où j'étais né peut-être, enfin, deux parties dans l'histoire, une avant, une après que j'étais né. Un jour, il est parti à un mariage. Bon, c'est un grand rave. Il va du mariage. Combien il reste de temps? On a un grand rave. 5 minutes, si c'est des gens très proches, 10 minutes, c'est vraiment la famille super proche, 1 heure. Il part à une famille inconnue, on ne connaît pas. Personne ne connaît qui ces gens-là. Des gens très simples. Il est resté là-bas de 8h à 11h. Pour Ben Sion, c'est jamais vu. C'est un des grands de la Torah, il a autre chose à faire, le monde entier à gérer. 3 heures de mariage comme ça. Qu'est-ce qui s'est avéré? La mère du Khatan, il y a 50 ans, quand lui s'est marié, le Rav Ben Sion, quand lui s'est marié, alors il partait de la synagogue, il rentrait à la maison avec sa kala. Il y avait combien? 300 mètres à faire. Sur le chemin, la mère du Khatan, elle faisait des yélélé, 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 comme ça, avec les mains, comme ça, 300 mètres, depuis la synagogue jusqu'à la maison. Je n'avais pas oublié. Il y a 50 ans, elle m'a fait ça, à Karatatov. Je dois être reconnaissant. Il va 3 euros au mariage, à moins des choses. Elle a fait ça, je refais. Ça, c'est une âme pure. Ça, c'est quelqu'un qui reconnaît. Et quand on reconnaît ça, on reconnaît aussi toutes les bontés d'Hachem. Et comme dit le Ramban dit c'est quoi le monde, le but du monde. Le but du monde, la halel ou l'odot l'Hachem. Louer et remercier Hachem. Hachem a créé le monde pour qu'on le loue et qu'on le remercie. Parce que lorsqu'on reconnaît les bontés d'Hachem, ben on se branche avec lui. Tu reçois un flux d'amour. Si tu en es conscient, tu le reconnais, tu le dis, ça devient une histoire d'amour. Toute la Torah, c'est une histoire d'amour. Toute la Torah, c'est une histoire d'amour. Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, Shira Shirim, le Cantique des Cantiques, c'est le Saint des Saints. C'est quoi une histoire d'amour? Dans le Saint des Saints, tu as les deux chérubins, une histoire d'amour. Un mâle, un femelle, dit Srazal. Tout l'exemple de Shira Shirim, entre un homme et une femme, c'est Shuburu, Dieu et Israël. Comment créer cet amour? Le but de tout ce qu'on fait, l'étude de la Torah, les mitzvot, tout ce qu'on fait, c'est une histoire d'amour avec Hachem. Comment? Moi, je peux à la rigueur parler à Hachem, je peux peut-être aimer Hachem, mais lui, j'entends jamais. Ben, mon cher ami, c'est faux. Regarde. Regarde tout le flux de bonté que tous les jours. Tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux. Il y a le soleil, il y a le jour. Il y a une réalité, tu as une famille. T'as tellement de bonté, chaque détail. Hachem a créé des fleurs. Ça fait pas de fruits. Ça se mange pas. Ça reste une semaine, deux semaines, ça se fane. Pourquoi il a créé ça? Quand tu passes, tu as un plaisir des yeux. C'est pas un recette. Et combien de sortes de fleurs? Combien de beautés de fleurs? Tellement c'est calculé tout ça pour. Sois beau. Rien que pour toi. Les chats regardent les fleurs, les chiens. Rien que pour toi, Hachem crée les fleurs. Et chaque détail, on peut chercher. Ça devient une histoire d'amour à deux sens. Je vois, je sois un flux sans cesse. Et le but du monde, le Ramban, c'est louer Hachem. Le remercier, le louer. Ça devient une histoire à deux sens. Pour y arriver, le couple. Quand moi je serai réceptif, je vais voir, faut voir. On dit en hébreu, la cime lève, mette le cœur. On met le cœur. Que mon cœur ressente toutes les bontés. Combien de bontés me donne mon conjoint? Dans les deux sens. Ça devient une histoire, une unité extraordinaire. Et partout où il y a unité, Hachem vient, qui est un aussi, et s'installe. Oui.
Le problème, c'est que lorsque je reconnais le recette que me fait l'autre, c'est que je risque maintenant moi de donner parce que je me sens redevable, parce que je suis reconnaissant, et non pas de façon désintéressée.
D'habitude, lorsqu'on se rend compte de la bonté que l'autre fait envers moi, ça crée chez moi, en tout cas dans le cadre du couple, et si je me travaille dans ce sens, pas une dette, mais un amour. Comme un enfant qui aime sa mère. Pourquoi il aime tellement sa mère? Il se sent redevable. Il a tellement reçu. Il aime. Comment aimer Hachem? En voyant toutes les bontés qu'il nous fait, on se met à l'aimer. Comment aimer son conjoint? Voilà, toutes les bontés qu'il me fait. Je commençais à l'aimer. Je pense pas que. Il se peut qu'il y ait un piège pareil aussi de se sentir redevable, donc de vouloir casser cette reconnaissance. C'est possible aussi dans le couple. Avec un peu de simatlev, de mettre le cœur vraiment et de bonne volonté, on peut comprendre que c'est une aubaine que j'ai un conjoint pareil, voir tout le bien qu'il me donne. Ainsi, le sentir vraiment, et là ça crée normalement tout à coup une envie sincère de vouloir donner aussi. Et bien dans Hachem, on va se donner énormément, et c'est mes...
Il faut faire de la plongée, là.
Pourquoi pas? Le Rambam dit un des moyens d'arriver à l'amour d'Hachem, c'est regarder le monde qu'il a créé. Chez moi, j'ai un bouquin dans les toilettes, quand j'étais jeune, j'aimais bien la plongée. Non, pas avec. J'ai voulu. Bon, bref, je vais pas raconter toute ma vie, d'accord, mais j'ai un bouquin de. J'ai un bouquin, je travaille sur les fonds marins, tout ça, les animaux, c'est fantastique, c'est de toute beauté.
On a une mission d'aller justement au bout du monde pour aller voir.
Je sais pas, je crois que dans le cadre de la Torah, si quelqu'un étudie la Torah, c'est tellement. Mais si maintenant, voilà, tu sors, on fait un tube la semaine prochaine, la semaine d'après, ça dépend de la bonté de la chaîne par rapport à la météo. Certains, quand tu sors déjà, profitez de voir la bonté d'Hachem. C'est clair. Mais rien que le soleil. Quelle invention extraordinaire. Alors, comme les fleurs, combien de bienfaits fait le soleil dans le monde ? La photosynthèse, la chaleur, c'est agréable, hein, la bonne humeur, d'accord ?
Ouais, c'est ça, c'est un
voilà, sourire, voilà. C'est... Quel chesed ! À part tout. Ah, de quoi louer. Si on commence à faire attention à ça, on loue Hachem jour et nuit. L'autre, kol neshama tel alia. Chaque neshima, chaque respiration, on peut louer Hachem. Il faut faire attention, parce que quand on reste dans son petit ego, tout ça, la journée, Ah, des moyens, dans les shivas aussi. Combien on doit être reconnaissant. Rien que. On veut en société. Chaque particulier de la shiva ici, il aide à cette société. Il est là, il fait partie du groupe. Déjà, rien que ça, t'as une reconnaissance. Il t'a fait un sourire, il t'a aidé pour un pchat. Quoi que ce soit, c'est une grande reconnaissance. Quelqu'un qui s'est reconnaissant aux autres, d'abord, il sera heureux avec lui-même. Il se rapproche de la chaîne, il sera aimé par les autres aussi. Parce que l'orgueilleux, on n'aime pas. Il se met à part. Il se met à part de la société. Lui-même. Il y a moi, il y a les autres. Alors, quand tu te sens moi et les autres, ben, ça fait une réaction normale que les autres se mettent à part. Il y a toi, il y a nous. Quand au contraire, quelqu'un est reconnaissant envers tout le monde, alors il est aimé de tout le monde aussi. Mais comme je dis, c'est un travail de six matelèves. Il faut y penser sans cesse. Le quotidien nous fait oublier ces choses-là. Il faut y penser, y repenser. Pour ça, il faut du moussard là-dessus aussi. Mais comme je dis, c'est pas compliqué. Six matelèves, commencez à voir. Faire des listes de tous les bienfaits qu'Hachem me fait. Une fois, un élève, c'est la yeshiva. Hachem m'aime pas. Il y avait des problèmes, elle va pas se marier, il y avait beaucoup de galères. Mais bon, pas sauf ça, t'es allé Shiva, t'es là, t'étudies la Torah, tout ça. Non. Vraiment négatif. Et je vais travailler avec toi, tu vas m'écrire tous les jours, comme je dis, trois ou cinq bienfaits qu'Hachem te fait. Incapable de faire ça. Quoi ça provient ?
Aveuglé,
oui, mais pourquoi ? Pourquoi il est aveuglé ?
Parce qu'il est centré sur lui-même, donc il ne voit pas le bienfait des autres.
Non, parce qu'il croit que c'est normal, tout ce qu'il y a déjà à comptabiliser dans
le bien. Voilà, on ne fait pas attention, on s'habitue, c'est connu. Tu vas à l'hôpital. Fais quelques oncologie, tu prends les estropiés, machin. Là. Tu sors, tu danses. J'ai mes deux yeux, j'ai mes deux bras. Nous, habitués les matins, ça va un peu guili-guili. Pourquoi je me fais ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est injuste.
Vous avez dit que l'ego était plus prononcé chez certaines personnes parce qu'elles étaient plus habituées à recevoir depuis leur tendre jeunesse. Ça voudrait dire que dans l'enfance, de l'éducation de nos enfants, il faudrait justement prendre en compte justement de ne pas trop donner de façon gratuite pour éviter justement de leur développer un niveau trop poussé.
Bien sûr, pas trop donner, pas non plus. pas trop donner, éduquer à l'autre, c'est ça l'éducation, c'est ça. Baruch HaShem, dans ce sens-là, il est clair qu'il y a un grand bienfait dans la famille orthodoxe, c'est le nombre d'enfants. Forcément, quand tu es avec plusieurs enfants, tu sais avoir laissé la place à l'autre. Tu n'as pas le choix. Ça devient les enfants uniques souffrent d'habitude. C'est très dur pour eux de s'habituer à une société qui a l'autre.
Mais s'il y a un enfant qui sort du lot parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus intelligent, etc. Alors là, tout de suite, ça fait...
Faut être intelligent. C'est connu. Dernièrement, quelqu'un m'a écrit. Il a le deuxième fils. Il fait les 400 coups. Ouais, il a 3-4 ans. Il a pris un bouquin de télé, il déchire un petit morceau. Il l'a mis sous son lit, il déchire un petit morceau. La kippa, il a jeté, il allume la lumière, il éteint le Shabbat, d'accord pour ça. Et l'autre, 5 ans, l'enfant modèle. Il a réussi dans tout. Tout, mais bien sûr, l'enfant, il veut sentir qu'il existe. Maintenant, l'autre, il réussit mieux que lui, il a 5 ans, lui, il a 3 ans. Comment il peut dire « j'existe » ? Donc lui, il est obligé, montrer clairement que la voie dans laquelle son frère réussit, pour lui, c'est une voie tordue, donc elle ne compte pas. Donc la réussite de son frère n'en est pas une. Et lui va se créer maintenant un autre moyen de montrer que je suis là. Moi, je suis bon, je suis un plus grand des mafiosis, d'accord ? Je suis un caïd. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, il faut... D'abord, les parents doivent s'asseoir et faire une liste de toutes les qualités que lui a, que son frère n'a pas. Et après, commencer tous les jours à en parler. Ton frère, il est réussi en disant, mais toi, tu as des trucs, tu étais spontané, tu es gentil, tu veux faire le reste et tout ça. Et c'est vrai, chacun a des qualités.
C'est pas de quoi la spontanéité comparée à...
Trouve, tu peux trouver. Chacun a des qualités énormes. Chacun a des qualités énormes. Il faut les trouver. Quand tu les trouves et tu mets une cimatelève, tu vas les faire monter la conscience, en parler. Le gosse, il dit, voilà, j'ai du bien en moi. Et je vais maintenant, j'ai envie de développer ce bien qui est en moi. Alors il va développer un bien. Un bien, le bien qu'il a, il va le développer. Le Rav Sweet m'a dit ce matin, ils ont lu dans les jours, que l'épreuve qu'Hachem nous demande, la perfection qu'Hachem nous demande, c'est pas de se battre contre le mal qu'on a. C'est pas d'acquérir des choses qu'on n'a pas en nous. Il dit comme ça, chacun a des qualités. On va nous juger pour les qualités que j'avais et que je n'ai pas exploitées à fond. La perfection, c'est prendre mes qualités et les exploiter à fond. Et il dit, quand tu vas, tes qualités, propres qualités, tu vas les exploiter à fond, de façon automatique, tout le mal qui est en toi, il se transforme en bien. Parce que les qualités que tu as, c'est ce que tu as. Ce sont les outils qui permettent de corriger. Tu peux aller contre le mal, taper le mal, bam, bam, mais le mal, il est mal, il est là, d'accord, il reste. Utilise maintenant ce que tu as comme arme. Tes qualités, c'est des mitzvot que Hachem t'a donné, des trucs, des dons que tu as. Tu es sensible au Emet, tu es sensible au Chesed. Tu as des choses que d'autres n'ont pas, qui sont tes qualités à toi. En les perfectionnant de façon automatique, et c'est compréhensible, tu vas investir dans le bien. Alors, vu qu'il est dans le bien, tu es dans le bien. Au moins, le mal, il n'a plus son mot à dire. Mais quand le bien que tu as chez toi potentiel est tout petit, le mal, moi je suis là, et il a un argumentaire très très puissant. Tu as développé maintenant le bien que tu as en toi, tu es heureux, chacun aime être ton... Il n'y a pas un être humain au monde qui aime qui veut être mal, chacun veut être bien. Des fois, il n'arrive pas. Mais s'il va commencer à voir le bien qu'il y a en lui, et on va commencer à grandir ce bien-là, on va l'aider, l'éduquer, lui faire montrer tout le grand qu'il y a. Au bout d'un moment, il va se raser là-dedans, et automatiquement le mal qui est en lui va s'atténuer et disparaître. Bahouk Adonai, Amen.